longitude 181.
La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka.
Bonjour, aujourd'hui je vous emmène aux Maldives. Et aux Maldives, je vous propose de rencontrer les raies-mantas. Et pour rencontrer les raies-mantas, j'ai fait appel à un spécialiste de la question, Nif Roman, de l'association Manta Trust, qui, comme son nom ne l'indique pas, est italien. Bonjour Nif.
Bonjour Daniel.
Nif, vous travaillez aux Maldives. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus ce que vous faites ?
Je travaille pour le Manta Trust, qui est une organisation qui s'occupe de la conservation, de la recherche sur les raies-mantas, que c'est les animaux un peu emblématiques de la beauté sous-marine. Et moi, je m'occupe de projets de recherche aux Maldives, qui est le plus ancien entre le Manta Trust, qui existe depuis 2005. Et les Maldives, c'est un endroit spécial pour étudier ces animaux, parce que c'est la population plus nombreuse identifiée de mantas de la planète, la concentration plus extraordinaire de ces animaux dans le globe. Et donc voilà, c'est l'endroit parfait, extraordinaire pour pouvoir étudier ces animaux dans leur milieu naturel.
Alors ces animaux sont magiques, sont gracieux, sont de grandes raies d'une envergure impressionnante et qui ne laissent jamais indifférents les plongeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'actualité des mantas aujourd'hui sur la planète ?
Malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles naturellement par rapport aux mantas. C'est des animaux qui naturellement attirent beaucoup le public passionné de la mer. Mais en même temps, il y a l'autre côté, les mantas sont énormément menacés. Et de plus en plus, avec les années qui passent, la pêche aux mantas, la pêche directe aux mantas a augmenté énormément dans les dernières années. Et ils sont en vue des disparitions. Il y a plusieurs pays en trois régions où les mantas ont complètement disparu à cause de la pêche directe. C'est des animaux très, très curieux, qui s'approchent à l'être humain très facilement, qui sont aussi faciles à pêcher. Et pour des pays où l'économie est basée sur la pêche.
Est-ce que c'est un animal qu'on pêche pour l'alimentation ou c'est un animal que l'on pêche pour d'autres raisons ?
La manta est pêchée principalement pour leurs blanchies. Les blanchies sont très valables dans le marché chinois ou sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Ils sont de plus en plus valables et de plus en plus populaires en Chine aussi. La viande de manta, elle n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas utilisée pour l'alimentation humaine. C'est soit rejetée dans la mer, soit utilisée pour l'alimentation animale. Donc c'est vraiment que le marché chinois qui guide toute la pêche au manta.
Alors ça fait partie des mauvaises nouvelles, mais est-ce qu'on a également des bonnes nouvelles ?
Absolument, oui. Heureusement, comme les mantas, je disais, c'est des animaux majestiques, magnifiques, extraordinaires, gracieux. Et les plongeurs sont en compte de ça. En parlant avec les plongeurs, la manta est toujours parmi les espèces sous-marines, les animaux sous-marins qu'on absolument va voir pendant leur plongée. Et pas seulement le public se rend compte de leur beauté, de leur importance, aussi les gouvernements, les pays surtout, principalement, c'est d'abord les pays où le tourisme sous-marin est très développé et très important. Mais grâce à ça, grâce aussi aux travaux, à la recherche, aux études d'organisations comme le Manta Trust, mais il y en a d'autres aussi, qui montrent au gouvernement les menaces de ces animaux, la vitesse dans laquelle ils sont en train de disparaître et aussi l'importance qu'ils ont dans un point de vue aussi économique.
Vous avez quelques chiffres à nous donner ?
On a estimé, par exemple, moi, comme je travaille aux Maldives, je peux vous donner quelques chiffres. Aux Maldives, le tourisme au manta produit 8 millions de dollars par année pour le gouvernement maldivien. Au niveau global, cette chiffre arrive à 140 millions de dollars. Et c'est un chiffre énorme, mais on a estimé même la valeur du manta vivant par rapport à la valeur du manta mort. La différence est extraordinaire. Une manta morte vaut 500 dollars dans le marché chinois. Par contre, la manta vivant qui vit 40-50 années, par le tourisme, elle peut être valable jusqu'à 1 million de dollars. Donc c'est vraiment une différence exorbitante. Grâce à ces résultats, à ces études, beaucoup de gouvernements de différents pays se sont rendus compte de l'importance de ces animaux et sont en train d'augmenter le niveau de protection. La nouvelle de cette année, c'est que l'Indonésie et les Maldives ont déclaré les mantas officiellement protégés au niveau national. L'Indonésie était un pays qui pêchait les mantas activement, continuellement et directement. Donc c'est vraiment un résultat extraordinaire qu'on espère de pouvoir reproduire de plus en plus dans d'autres pays. C'est les premiers pas vers une protection, une conservation globale de ces animaux majestiques.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà des mesures de protection qui ont été votées par la totalité des États ou pas encore ?
Le CITES, en 2013, qui se réunit à Bangkok, a voté à l'introduction des deux espèces de manta dans l'appendix 2. C'est-à-dire, c'est une liste d'espèces qui sont en risque, menacées par la pêche et qui ont besoin de quelques mesures de protection. Et donc, c'est fantastique le résultat qu'on a eu à Bangkok l'année dernière. 98% des États qui participent à cette convention, et c'est 180 États, donc c'est représenté dans le monde entier, ont voté voté à favor dans l'introduction de deux espèces au montant d'une seule liste à deux espèces menacées qui ont besoin justement d'un certain niveau de protection. Ce n'est pas vraiment la conservation, la protection totale, parce que quand même le marché des montagnes est encore ouvert, mais doit être réglé et doit être soutenable. Donc il y a des lois maintenant que les pays vont mettre en lieu pour faire que cet marché soit soutenable. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'est pas soutenable du tout, donc ils vont arrêter complètement la pêche en montagne. Mais c'est de nouveau le premier pas, un petit pas, mais en fait un gros pas vers la conservation. Et le fait que les pays se rendent compte de l'importance, c'est que voilà, on a eu presque 100% à faveur des montagnes, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin.
Ça veut dire aussi qu'il faut être vigilant sur ce qui va se passer dans les mois et les années à venir pour qu'on puisse effectivement garder ces mesures de protection.
Absolument, oui. On est déjà en train de préparer notre projet de conservation pour le prochain CITES, et que ça ne sera pas seulement autour des montagnes, mais comme nous on travaille sur les mambulas, il y a 9 espèces de mambulas aussi connues comme les diables de mer, desquelles on connaît encore très peu, mais qui sont aussi extrêmement pêchées pour exactement la même raison. Et le prochain bout, c'est d'arriver à faire rentrer aussi tous les mambulas, tous les mambulides dans la liste Appendix 2, et donc de gagner un niveau protection global pour toute la famille des mambulides. Donc il faut absolument continuer à suivre. Il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est là que c'est le moment excitant, c'est le bon moment pour la conservation.
Alors Annie, vous passez beaucoup de temps dans l'eau, vous êtes aux Maldives, vous voyez de très belles choses, vous êtes en compagnie des Raymantas. Faites-nous rêver, donnez-nous un moment extraordinaire à partager que vous avez aimé.
La vérité, c'est que chaque fois que je suis dans l'eau avec les mantas, c'est comme la première fois, et c'est un moment que j'aimerais partager avec tout le monde, et que c'est presque impossible à décrire. Mais c'est vrai que pour le moment plus spécial, maintenant, c'est la première fois que j'ai nagé avec un rassemblement de mantas. Et c'est là que je suis vraiment... Je suis devenu manta moi-même. J'étais au milieu d'eux, et les mantas... vraiment me parler dans une façon, pas comme on parle à nous ici, mais dans une façon un peu plus spirituelle, juste les regardant dans les yeux et avoir 50 mantas qui nagent tout autour et qui nagent côté à côté de moi, c'était extraordinaire. Surtout la première fois, c'était extraordinaire. Je ne m'expectais pas du tout de voir ça et de sentir ça sur l'eau.
C'est magique, on a envie de vous suivre, on a envie de rêver. Quelle est la menace ou quel est l'aspect négatif que vous avez pu voir justement dans cette gestion des mantas et qui vous a fait le plus mal?
Bon, il y en a aussi plusieurs. Naturellement, voir ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai la chance de vivre et de travailler aux Maldives où il n'y a pas beaucoup de menaces, il n'y a pas de la pêche aux mantas au moins, mais il y a quand même des impacts. Naturellement, les filets de pêche. Les filets de pêche, c'est une menace énorme pour ces animaux. Mantas qui nagent dans ces filets de pêche, ils ne peuvent pas se libérer, débarrasser. Donc, cette année, ça m'est arrivé, ça m'a vraiment beaucoup touché. J'étais dans la baie de Anifaru, qui est notre... région de recherche principale, c'est une réserve marine où il y a des énormes rassemblements de mantas. Et comme nous, on connaît les mantas presque par cœur aujourd'hui, on a une manta qu'on voit depuis à peu près 12 ans et qu'elle est toujours dans cette baie, continuellement. On la voit, on la reconnaît tout de suite, elle s'appelle Squirt. Moi, je l'aime particulièrement. Et un jour, tout d'un coup, je vois arriver Squirt nager dans la baie et commencer à manger. Et je note qu'elle a... un hameçon et un filet de pêche sur l'aileron droite qui continue à bouger et peu à peu en train de provoquer des blessures dans l'aileron. Et voir que c'était une manta que je vois tous les jours, et l'avoir blessée, l'avoir comme ça, ça m'a vraiment touché. Je pleurais presque dans l'eau. Et dans ce moment, je me suis mis à la suivre, à essayer de la libérer. Et finalement, c'était extraordinaire parce qu'elle s'est approchée à moi, elle s'est laissée faire et j'ai pu la libérer. Mais naturellement, maintenant, elle est blessée. Peu à peu, ça va cicatriser. Mais quand même, elle va rester avec ce signe de l'impact humain, finalement. Et donc, voilà, l'impact humain qu'on voit continuellement, même dans un pays où les mantas sont protégés, où il n'y a pas de pêche, ça, c'est quelque chose qui me fait mal, qui me touche.
Merci beaucoup, Nive. Je rappelle que Manta Trust est partenaire de Longitude 181 Nature et que des actions sont tout à fait possibles en faveur des mantas. Il suffit de consulter pour cela les deux sites web de ces deux organisations, mantatrust.org et également longitude181.org.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquenceterre.com.